Bien écoutez, nous allons pouvoir commencer sans plus attendre donc cette table ronde qui porte sur le mythe du surhomme dans la science-fiction américaine de l'âge d'or. Et pour ce faire, nous avons ici un panel très distingué avec Ariel Kirou, qui est journaliste et essayiste, spécialiste de la science-fiction et aussi bien de Van Vogt que de Philippe K. Dick, auquel il a consacré d'ailleurs un essai, mais aussi un amateur de certaines littératures populaires comme Doc Savage ou Harry Dickson, et qui prépare un livre qui est en plein dans le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, qui s'intitulera « Le surhomme d'aujourd'hui entre l'homme augmenté, le cyborg et le mutant ». Donc, beaucoup de choses à dire. À côté, Thierry Smolderin, que lui aussi est très pointu sur les sujets qui nous intéressent. C'est un scénariste, entre autres, de bande dessinée, et il a fait très récemment Souvenir de l'Empire de l'Atome, où on trouve du quasi surhomme, on en parlera. C'est aussi un spécialiste d'Hergé et de son œuvre, auquel il a consacré plusieurs essais. Xavier Mauméjean, alors là, je ne sais plus si on peut le présenter, auteur multicarte dans tous les genres de l'imaginaire, depuis Lord Craven ou Comment je n'ai pas sauvé l'Empire, à Ganesha en passant par Car je suis Légion, Lilliputia, et puis le plus récent de ses romans, American Gothic. Et on termine avec la seule femme, pas de parité, Natacha Vazder, qui est universitaire, qui a écrit une thèse qui s'intitule « Ces Français qui ont écrit demain », et puis un tout récent sur les auteurs de la science-fiction française des débuts jusqu'à 1970, à peu près, 80 même, 2000. Et puis viennent sortir aujourd'hui un autre ouvrage, une anthologie d'essais qui s'intitule « Les dieux cachés ». Voilà, « Les dieux cachés de la science-fiction ». Donc vous voyez, nous allons pouvoir beaucoup parler de ce mythe du surhomme qui est effectivement dans la science-fiction de l'âge d'or. Alors l'âge d'or, hein, on part des années 30 avec la science-fiction des pulps. Vous en verrez certains derrière nous sur l'écran. Et nous avons décidé d'un commun accord de l'étendre jusque au moins au début des années 60. Donc, comme c'est un mélange de l'âge d'or et de l'âge d'argent, Xavier Mauméjean a décidé que nous couvrions en fait l'âge de vermeil. Voilà. Et la première chose pour commencer tout de suite, peut-être après cette présentation, c'est peut-être de demander à chacun d'entre vous d'abord. Quelle est votre définition du surhomme? Parce que le surhomme, c'est un terme excessivement vague. Donc, honneur aux dames, Natacha.
Merci Jean-Luc. Oui, les filles sont assez mal représentées quand même dans le milieu de la science-fiction. Mais bon, on est là, on existe. Donc, voilà. Il n'y a pas, d'ailleurs, on ne parle pas de surfemme, au passage. Ce sera une réflexion intéressante.
Il y en a, il y a des super-héroïnes aussi.
Voilà, super-héroïnes. Alors, pour moi, la définition du surhomme, je vais partir d'un classique, c'est-à-dire que le surhomme, c'est évidemment l'Ubermensch de Nietzsche. Et Nietzsche, dans ses essais philosophiques, pour lui, la vision du surhomme, c'est pas du tout évidemment le surhomme que l'on va voir après se décliner et être exploité par la science-fiction. C'est d'abord l'homme détaché de Dieu. Et donc, pour faire le lien avec la science-fiction, pour moi, le surhomme, c'est véritablement, finalement, l'amélioration de l'humain qui n'est plus une créature divine, mais qui se crée lui-même, voyez. Donc on part de Nietzsche finalement pour aboutir à un homme amélioré, peut-être un homme mutant, peut-être un homme hybride, peut-être un homme finalement manipulé génétiquement, mais en tout cas tout ceci se fait en dehors finalement de la divinité, en dehors de Dieu, en dehors d'une puissance divine. Donc pour moi le surhomme c'est ça.
Qui veut prendre la suite? Alors Xavier.
Pour moi, le surhomme, c'est le conflit entre la nature et la culture. L'homme, déjà, en tant qu'être humain, c'est le détachement de la culture, puisque est humain celui qui s'élève à l'humanité. On élève d'ailleurs des enfants, donc c'est celui qui va réaliser un potentiel. Ça, c'est le, c'est l'humain, c'est l'homme. Et le surhomme, un peu dans la compréhension juste de Nietzsche, c'est celui qui va révéler en lui un potentiel. C'est pas une surhumanité, mais c'est la réalisation d'une puissance, au sens classique, d'un potentiel qu'on a chacun de nous. Et je pense que, sans vouloir trop déborder en amont du cadre fixe de la discussion, je pense que le surhomme tel qu'il va se cristalliser, tel qu'il va apparaître dans les pulps dans les années 20-30, trouve son avant-garde, ses éclaireurs, dans le Tarzan d'Edgar Rice Burroughs, parce que le personnage est anglais, mais l'auteur est américain, et il y a une bonne part de science-fiction dans Tarzan. Tarzan qui est doublement au-dessus des hommes, puisqu'il est seigneur de la jungle et il est père du royaume aussi. Il est donc culturellement et naturellement surhomme. Et je pense que, pour moi, le surhomme, c'est l'aboutissement dans les années 30 d'un phénomène qui s'est déplacé de l'Angleterre à l'Amérique et qui est la notion de « missing link », de « chaînon manquant », qui est un terme qui apparaît pour la première fois en géologie, pas du tout dans les sciences de la nature, et qui désigne l'intermédiaire. Et je pense que le surhomme, c'est celui qui, justement, n'est pas au-dessus de l'humanité, mais il est l'intermédiaire entre le naturel et le culturel. Voilà.
On va revenir là-dessus. Mais alors, avant, on continue donc de voir vos définitions.
Oui, donc pour moi, le surhomme, c'est évidemment tout ce qui a été dit, que ce soit Nietzsche d'ailleurs ou ce que vient de dire Xavier. Je dirais que le surhomme, c'est l'homme plus quelque chose. Voilà. Bon. Alors l'homme plus, c'est quoi? Ça peut être simplement un homme normal qui effectivement va réaliser des choses assez exceptionnelles. Ça peut être un homme augmenté. Alors soit augmenté par des technologies qui lui sont extérieures, soit augmenté par des technologies qu'il va ingérer. Hein, qu'on va lui ingérer quelque part. Donc c'est l'homme d'aujourd'hui, mais avec ce supplément en quelque sorte, non pas d'âme, mais de technique ou de technologie. Mais c'est aussi potentiellement le mutant, c'est-à-dire celui qui se transforme sans même potentiellement qu'il sache pourquoi. Hein. Mais dans tous les cas, c'est soit l'homo sapiens, c'est un tout petit peu plus par hasard ou par choix, ou ça peut aller jusqu'à effectivement la suite même de l'homo sapiens dans certains romans de l'âge d'or. Là, pour le coup, ce que je dis là correspond très précisément à la multiplicité des surhommes dont nous allons parler.
Alors, moi j'aurais beaucoup de mal à définir le surhomme parce que j'y vois surtout un ensemble de fils historiques. Je pense qu'au XIXe siècle, le surhomme, c'était... L'exemple, le prototype du surhomme, c'était Napoléon Bonaparte. Et que donc, au XIXe siècle, le surhomme était quelqu'un qui s'élevait au-dessus de la masse pour la diriger dans une tradition qui remonte peut-être à l'Antiquité. Alexandre le Grand, c'est le héros, c'est ce qui, dans la mythologie, était un mélange de dieu et d'humanité. Et c'est un révélateur, en fait, le thème du surhomme, c'est un révélateur de notre situation culturelle. On invente des marges, on invente des prototypes en fonction de l'atmosphère sociologique qui règne et de l'atmosphère culturelle. Au XXe siècle, évidemment, et à l'époque d'Edison et de Tesla, c'est la science qui est devenue le point d'ancrage pour cette notion de surhomme. Et surtout que la science et la technologie surtout a hérité d'une espèce de aura à cette époque-là et qui a fini par se transporter assez vite d'ailleurs vers l'homme. La possibilité, le darwinisme, la biologie moléculaire ont commencé à donner cette espèce de marge que chaque étape culturelle donne à l'homme et donner donc un horizon, une espèce de frontière à dépasser, de possibilités rêvées qui est celle-là. Voilà.
Merci. Alors, je pense que là, déjà, on vient de poser un petit peu les bases. Et je crois que ce qui serait intéressant, c'est qu'on voit, et nous étions tous d'accord pour dire que, outre le surhomme qui apparaît dans la littérature de science-fiction à partir des années 30, on peut y adjoindre, parce que c'est aussi concomitant, hein, comme apparence, ce sont tous ces super-héros de BD. Et en fait, ça n'apparaît pas soudainement. C'est le produit aux États-Unis d'un environnement culturel qui existe depuis le début du 19e siècle et qui est cette évolution des courants de ce qu'on a appelé l'eugénisme et des courants du racisme, mais là, qui ont été faits. Alors peut-être, Natacha Vazder, vous nous en parlez, parce que c'est ça qui donne, dans les années 30, avec parallèlement les lois de Madison Grant, etc., un certain nombre de choses, et soudainement, le surhomme, il est aussi dans la réalité.
Oui, parce que à partir des années 30, il y a aux États-Unis des recherches scientifiques qui sont menées de façon très très importante sur les manipulations génétiques. Alors vous allez évidemment voir où je veux en venir, puisqu'en 1932, c'est Le meilleur des mondes, donc, de Aldous Huxley, et on voit très bien à travers Le meilleur des mondes, qui évidemment n'est pas uniquement finalement un avertissement sur ces manipulations génétiques, il y a aussi une critique de la société de consommation évidemment, et de l'organisation scientifique du travail qui se met en place finalement à cette époque-là, enfin depuis les années 20, depuis le fordisme. Mais on voit bien, si vous voulez, à travers Huxley, que finalement on essaie, la science à ce moment-là va essayer donc de faire de la sélection génétique pour justement essayer de créer un surhumain, hein, on parlait de surhomme, mais c'est surtout un surhumain, c'est-à-dire un humain qui va posséder toutes les caractéristiques qui seront effectivement nécessaires à la société. Alors, c'est peut-être pas tout à fait la même chose finalement que le surhomme, par exemple, en tant que mutant ou qu'hybride qu'on va retrouver dans la science-fiction, parce que Thierry a parlé des marges, c'est-à-dire que chaque époque, finalement, le surhomme se situe souvent à la marge, finalement, de la masse de l'humanité. Et simplement pour revenir un tout petit peu en arrière, même dans l'Antiquité, par exemple chez Homère, dans l'Odyssée, Ulysse, et ça nous rappelle évidemment Nietzsche aussi, Ulysse est celui qui va se détacher finalement de la divinité, qui va surpasser la divinité par son intelligence. Et Ulysse, pour moi, évidemment l'Odyssée, c'est le modèle de la littérature occidentale, mais pour moi Ulysse, c'est véritablement peut-être un des premiers surhomme, et ce n'est pas un demi-dieu, vous voyez, on est vraiment dans ce modèle-là. Et pour en revenir à ce que disait Jean-Luc, donc dans les années 20 et les années 30, aussi au temps de la colonisation, il y a non seulement l'eugénisme, mais enfin il y a surtout évidemment l'eugénisme, avec bien sûr on va supprimer ou on va stériliser les populations que l'on estime inférieures. Et je pense, par exemple, ce qu'ont fait les Anglais en Australie avec les aborigènes. Vous voyez, donc le surhomme dans la science-fiction va s'inscrire finalement dans cette espèce de double mouvement qui est un mouvement évidemment scientifique, mais aussi malheureusement un mouvement politique, idéologique, eugéniste.
Merci Natacha. Alors, là-dedans, donc maintenant, on va peut-être arriver, parce que c'est un foisonnement, on a commencé à l'évoquer, et puis il y a les marges aussi. Donc il y a tout un foisonnement de surhommes et de divers. Et il me semble, quand on en a discuté un petit peu avant pour préparer cette table ronde, qu'il y a deux sortes de variétés. Alors très schématiquement, il y a deux sortes de variétés principales de surhomme, hein, dans cette littérature et dans ces BD. Il y a le surhomme entre guillemets naturel, celui qui est le produit d'une mutation involontaire, etc., ou les extraterrestres à la Superman qui arrivent parmi nous et donc qui ont qui sont des surhommes par rapport à nous. Et puis il y a ceux qui sont les surhommes fabriqués, qui sont produits. Donc on pourrait peut-être commencer à rentrer dans un peu plus dans le détail en prenant des exemples comme ceux que vous voyez dans le diaporama, parce que certains auteurs, entre autres, se sont particulièrement illustrés dans ce domaine. Alors je pense entre autres à Van Vogt.
Oui, alors il y a effectivement, quand on rentre dans la science-fiction elle-même, on est auteur de science-fiction, quand on sort du contexte, on se rend compte qu'il y a des tas de surhommes effectivement très différents. Alors si on prend effectivement A.E. Van Vogt, qui est l'un des auteurs dont on voit les livres ici, on peut trouver plusieurs types de surhommes. Le plus célèbre de ces surhommes, c'est le Slan, dans un roman qui s'appelle « À la poursuite des Slans ». Ce qui est intéressant avec ce roman, c'est que les Slans sont, en gros, ils vivent 50 années ou 100 ans de plus. Ils ont plus de rapidité, ils comprennent beaucoup plus rapidement tout ce qu'on peut leur indiquer. Donc, ils ont des capacités supérieures et surtout, ils sont télépathes. Ils ont deux petites cornes en fait sur leur front. Ce sont des surhommes naturels. Ils sont le fruit d'une mutation, d'un hasard, hein, darwinien, on pourrait dire. Mais le paradoxe qui est intéressant, c'est que les humains qui combattent ces Slans, qui sont au début du roman de Von Vogt, qui sont en minorité en fait, hein, qui sont poursuivis, qui sont pourchassés, eh bien, ce que les humains disent d'eux, c'est qu'ils ont été fabriqués. En gros, être fabriqué serait quelque chose de négatif, alors qu'au contraire, être naturel serait quelque chose qui, en revanche, serait positif, en tout cas dans la morale de Von Vogt. Donc là, c'est intéressant parce qu'on voit ces deux moments différents. L'archétype du surhomme fabriqué, c'est Captain America dans la bande dessinée. Il est fabriqué. Pourquoi ? C'est en fait un jeune Américain, c'est au moment de la guerre. En plus, il a été construit à des fins de propagande, hein, le Captain America, c'est pour la lutte contre les nazis, et c'est un gringalet qui veut absolument aller se battre, et il va être le fruit d'une expérience, on va lui mettre du sérum et on va lui projeter des rayons, c'est une sorte de grand scientifique qui va faire ça sur lui pour le rendre plus fort, et ça va marcher, sauf que ce grand scientifique va être tué immédiatement après, ce qui fait que Captain America va être le seul super soldat. Donc là, on a un cas où il est fabriqué, mais pour une bonne raison. En fait, on ne fabrique que si c'est pour la patrie, que si c'est pour des choses qui sont pour réparer. Mais dès lors qu'il s'agit de s'améliorer, c'est mal de fabriquer. En tout cas, dans la plupart de ses romans. Après, chez Von Vogt, il y a d'autres figures encore très différentes du surhomme. On peut en citer une autre, qui est celle des Vénusiens et du héros du monde du non-a, hein, des joueurs du non-a et du monde du non-a. Le héros s'appelle Gilbert Gossen, il a un double cerveau, et les personnages qui sont censés être, on va dire, les surhommes de ce roman, ce sont les non-aristotéliciens, c'est-à-dire des gens qui réfléchissent de façon hyper rationnelle, mais avec beaucoup de recul, des sortes de scientifiques qui se retrouvent pour la plupart sur la planète Vénus, en fait. Bon, et le héros Gilbert Gossen, qui lui a un double cerveau, est un surhomme, et plus encore qu'un surhomme, parce qu'il a des clones de lui-même, donc il est quasiment immortel, et en plus, il a une forme de téléportation, c'est-à-dire qu'il peut mémoriser, mais au début du roman, en fait, il est très normal, il concourt à la machine des jeux qui permet de sélectionner ceux qui vont devenir les Vénusiens, c'est-à-dire ceux qui ont l'esprit suffisamment avancé pour être des sortes de surhommes scientifiques totalement naturels, uniquement par leur qualité intrinsèque. Et de fait, au fur et à mesure de ces deux romans et du troisième, surtout les deux premiers romans du monde du non-a, eh bien, il va entraîner son second cerveau et avoir des capacités, comme l'ont les Slans avec la télépathie, des capacités télékinésiques, des capacités supranormales ou psychiques en plus, mais là encore, sans qu'il ait été fabriqué.
Et il me semble, alors là, Xavier Méjean, qu'on a aussi toutes ces variétés de surhommes qui s'inscrivent dans ce courant un peu eugéniste et aussi sur la culture. Je pense à des surhommes comme Doug Savage, par exemple, qui sont des produits, alors là, d'une sorte de suréducation.
Oui, alors là, on parle de l'Amérique elle-même, parce que il faut quand même savoir que, au départ, les Américains arrivants sont considérés comme des sous-hommes en Europe. Ce sont des gens qui arrivent en étant l'ally de l'Europe, ce sont des nobles en rupture de famille, des prostituées, etc. Et donc c'est un peuple à qui on a martelé qu'ils étaient des sous-hommes, qui vont devoir se forger leur propre identité, etc. Donc il y a déjà un fond moral et un fond philosophique à cette origine du surhomme. Autre chose qui est intéressant par rapport à ce qu'a dit Natacha, dans son ouvrage Une sorte de vie, son autobiographie, Graham Greene raconte donc en Angleterre que son père, qui était directeur d'école, on est au début du XXe siècle, son père supportait pas le cinéma. Et un jour, il a entendu parler d'un film qui s'appelait Tarzan et qui pouvait être diffusé dans les écoles. Et son père, qui supportait pas le cinéma, qui était un directeur d'école anglais, sévère, etc., a pensé que c'était un film anthropologique. Et donc, il a envoyé toute son école voir Tarzan. Et Graham Greene dit plaisamment que, suite à ça, son père a toujours eu une certaine méfiance à l'égard du cinéma. Mais Tarzan, justement, c'est ce que disait Jean-Luc Rivera. C'est, certes, il est anglais, mais c'est une création américaine. Il fait partie de ces personnages qui vont devoir se créer eux-mêmes. Une sorte d'alchimie, de sublimation de soi. Tarzan survit à travers une démonstration expérimentale. Soit il vit, soit il meurt. Ce n'est pas théorique. Il faut qu'il s'en sorte tout seul. Et son père est mort. Détail très important dans les surhommes américains. Doc Savage, c'est pareil. Il va être entraîné aussi bien physiquement que psychologiquement par son père pour devenir le justicier américain et donc mondial, puisque ça revient au même. Et son père meurt. Et Bruce Wayne, un soir, s'engage dans Crime Alley après avoir vu le Zorro. Alors, le premier, c'est Douglas Fairbanks, après, c'est Tyrone Power. Ses parents se font tuer devant lui. Il y a une sorte de télescopage entre le film qu'il a vu, la mort de ses parents, la caverne du manoir Wayne où il y a des chauves-souris. Et il va lui-même s'entraîner pour devenir un surhomme. À chaque fois, le père meurt. Comme si le surhomme, c'était celui qui ne pouvait pas avoir d'origine, et pour cause, il n'est pas homme, il est surhomme, il ne peut pas avoir de père, et il est à lui-même son propre géniteur et son propre créateur.
Il y a peut-être une exception, je ne sais pas, Thierry Smolderen, vous pourrez peut-être nous en parler. C'est, je pense au fantôme du Bengale, où là, c'est de génération en génération, on élève le fils pour qu'il prenne la suite du père.
Oui, voilà, ça c'est une façon très amusante de résoudre le problème de l'immortalité par une espèce de généalogie très très bien réglée, d'ailleurs parce que les fantômes se ressemblent tous à l'identique, donc c'est presque une généalogie de clones avec un scénario complètement tiré par les cheveux. Là, il y a quand même quelque chose qu'il faut peut-être dire par rapport à tous ces producteurs de surhommes, ces écrivains, ces dessinateurs de bandes dessinées, c'est que en général, ce sont des gens pas très éduqués. Ce sont des gens qui ont eux-mêmes, qui bricolent leur carrière d'écrivain de façon souvent en prenant des cours par correspondance et des choses comme ça, qui ont un rapport avec la rationalité qui est un rapport de gens pas formés par l'université en général, et donc qui reflètent d'une certaine manière un mélange de fascination pour la culture et pour la science et pour la technologie, et en même temps qui bricole avec des outils assez rustiques, une construction imaginaire qui est faite de briques et de brocs, de là à arriver à finalement une littérature qui est extrêmement syncrétique. Par ces allusions, ils sont capables, parce qu'ils ne sont pas formés. Je ne suis pas en train de traiter ces gens de crétins du tout. Hein. Je pense qu'ils font un travail absolument fondamental et que dans toutes les cultures, dans tous les pays du monde, il y a ce travail fait par les gens qui ne sont pas formés par l'institution et qui sont en fait des passeurs et qui travaillent au niveau sémiotique de façon très 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 profonde. Je pourrais donner un exemple de surhomme qui n'entre certainement pas dans le cercle de ce qu'on voulait faire, mais par exemple au début du XVIIIe siècle, il y a eu une tendance au théâtre, dans le théâtre anglais, de pantomime basée sur les arlequinades et arlequins. Dans le théâtre anglais, était un surhomme, c'était un magicien qui était capable de se transformer, de transformer les objets de façon complètement magique. Et cette tendance du début du XVIIIe siècle était adressée à des gens pas éduqués, qui étaient les apprentis, et qui ont fait une espèce de triomphe à ce genre théâtral qui a fini par s'imposer durablement pendant presque d'un siècle et demi dans le théâtre anglais. Et je pense que c'est de génération en génération, de situation culturelle en situation culturelle, il y a un travail qui est fait comme ça par des gens qu'on pourrait croire acculturés, qui sont souvent tendus entre l'extrême sophistication, par exemple Van Vogt, qui n'a je crois, pas d'éducation universitaire que je sache, se base pour faire le monde des nonas sur un ouvrage complètement cryptique de sémantique générale qui est à peu près illisible. Enfin, moi, j'ai essayé de le lire une fois ou deux et je ne suis jamais arrivé. Il en a tiré des bribes, il en a fantasmé. Donc ce travail-là, c'est un travail qui est vraiment très important et qui continue aujourd'hui dans la science-fiction, dans la bande dessinée, fait par des gens qui ont à peu près ce même profil. Je ne sais pas d'ailleurs si je suis arrivé à dire quoi que ce soit, à répondre à la question, mais c'est une...
Si, tout à fait. Alors oui, effectivement, la théorie de la sémantique générale du comte Alfred Skorzybski, c'est vrai que c'est totalement illisible. Il y a sans doute que Van Vogt qui a réussi à en tirer quelque chose. Bon, d'autres, mais Ariel Kirou nous en parlera. Alors, j'aurais quand même, avant qu'on continue un petit peu, une question à propos de l'un des grands archétypes de la littérature de science-fiction de l'âge d'or. C'est celle du savant génial. Alors, gentil ou malfaisant, mais génial, et qui fabrique des choses extraordinaires dans son garage avant de partir à la conquête de la galaxie. C'est par exemple les romans, toutes les séries des Lensman, de Doc Smith, etc. Alors, est-ce que vous pensez que le savant de génie rentre dans notre thématique d'aujourd'hui du surhomme ou pas?
Alors, ça, c'est une question intéressante parce que, en fait, derrière, moi, ce que je vois surtout, c'est que finalement, cette image du surhomme, alors que ce soit un super savant, créateur, intellectuel, etc., ou un surhomme qui soit physiquement, évidemment, développé, je crois que ce qui est important derrière, c'est que très souvent, le surhomme, c'est un double. C'est-à-dire qu'avec le surhomme, ben, par exemple, typé Captain America, c'est-à-dire un surhomme finalement idéologiquement marqué qui œuvre pour le bien des États-Unis politiquement parlant. Derrière ce type de personnage, vous avez également toujours des surhommes qui peuvent avoir des faiblesses. Et ça, on le voit par exemple à travers les comics. Alors, on le voit bien sûr. Ça, je suis pas spécialiste de ça, mais j'ai quand même bien.
Parce que Captain America, il y a quand même.
Oui, il y a toujours une part peut-être.
Non, mais parce que c'est Marvel qui est derrière. Et Marvel, c'est quand même ce qu'on pourrait appeler. Si tant est que c'est du sens la gauche américaine hein, par rapport et par exemple Captain America, il faut savoir qu'au moment du Vietnam, ils ne l'ont pas envoyé au Vietnam. Le personnage n'intervient pas au Vietnam.
Oui, mais ça c'est plus tard.
Oui, mais c'est les mêmes créateurs. Oui, c'est les mêmes. Ils étaient encore.
Là, je pense qu'on voilà, on restait dans le contexte. Non,
c'est-à-dire que le personnage 40. Du surhomme dans lorsqu'il représente une nation, il a quand même sa subjectivité, il peut penser...
Oui, absolument. Et c'est pour ça que ce que je voulais simplement dire, que bien souvent, vous avez des surhommes au négatif, c'est-à-dire que souvent dans la science-fiction, il y a cette création finalement ou d'un double maléfique, alors ou d'un savant maléfique qui va œuvrer pour le mal, ou effectivement d'un surhomme, d'un surhumain qui lui aussi va se trouver finalement du côté obscur de la force. Et donc cette figure du surhomme, vous voyez, c'est une figure qui est quand même, comme souvent en science-fiction, une figure très plastique, moralement parlant aussi.
Oui, pour répondre à votre question, il y a très peu de scientifiques en tant que tels, de fous géniaux, qui sont des surhommes. Souvent, et c'est l'exemple de Captain America, c'est eux qui vont permettre à des surhommes d'exister. En revanche, il y a un cas qui est assez peu connu, pour un roman pourtant hyper connu, qui est Fondation d'Isaac Asimov. Les deux fondations qui se créent donc dans le roman d'Isaac Asimov à partir de la psychohistoire de Harry Seldon, en fait, il y a une fondation qui est sur les sciences, ce qui est sur la sociologie, qui est sur les sciences molles, on va dire. Il y a une fondation qui est sur les sciences du mental, qui apparaît surtout à partir du deuxième, voire du dernier fondation, quoi, du troisième fondation, qui est la seconde fondation, où là, c'est des scientifiques qui ont des pouvoirs mentaux. Ils se parlent par télépathie. Ils ont un pouvoir sur les objets de télékinésie. Et c'est eux qui sont derrière. On ne sait même pas où ils sont. Ils n'ont pas de planète. Et quelque part, ils ne sont jamais nommés en tant que surhommes. Mais tout ce qu'ils font, la manière dont ils orientent en quelque sorte l'histoire, a tous les éléments de ce qu'on considère comme étant un surhomme. Ils ont des capacités complètement extraordinaires, un peu comme le mulet qui vient de chez eux, qui est le personnage un petit peu maléfique du deuxième fondation, hein, du deuxième roman donc de la série de fondations. Et là, c'est un cas assez unique. D'une sorte effectivement de progressisme scientifique, d'exercice mental sans technologie a priori, mais par la pure pur exercice sur soi-même qui aboutit à une civilisation quasiment de surhomme.
Et si je me souviens bien, le mulet, lui, est le produit d'une mutation.
Il est le produit. Alors, c'est ce qui semble au départ, mais de fait, après, on apprend qu'il vient en fait des mêmes zones, des mêmes territoires que les gens donc de la seconde fondation, donc dans le roman. Voilà. Donc.
Mais il est considéré comme une aberration, le mulet, dans Fondation.
Oui, mais si il est considéré comme une aberration. Mais ce que fait le mulet, alors justement, parmi ces capacités qu'ont en fait ces surhommes donc de la seconde fondation, il y a ce qu'utilise le mulet, la capacité en fait à faire aux autres exactement ce qu'on souhaite. En fait, voilà. C'est-à-dire, en fait, c'est une sorte de manipulation totale. Il rentre dans l'esprit, et c'est comme ça qu'il gagne toutes ses batailles, le mulet, parce qu'effectivement, il rentre dans l'esprit de ses adversaires, qui donc forcément vont se rendre. Et des gens qui veulent le détester, il y a un personnage comme ça dans le deuxième, la deuxième fondation, qui est une sorte de super de soldat, de personnage un peu intelligent, qui va devenir un esclave, qui va aimer le mulet, alors qu'il a été son adversaire le plus total. Et c'est une aberration, le mulet, justement, parce qu'il utilise ses dons de télépathie et de manipulation de l'esprit des autres, non pas pour le bienfait, pour le progrès, pour que l'Empire se reconstruise sur des bases beaucoup plus humaines, beaucoup plus empathiques, mais au contraire pour sa propre soif de pouvoir. Et ce n'est pas lui en tant que tel, mais c'est ses motivations, et c'est ce qu'on retrouve bien souvent dans les images du surhomme, c'est que ce qui va faire la différence, c'est quelque part, est-ce qu'ils œuvrent pour le bien ou pour le mal, aussi caricatural que cela puisse être. En tout cas, dans les romans de ces grands noms de l'âge d'or que sont Isaac Asimov ou Van Vogt, les choses sont différentes lorsqu'on va chez Stapleton ou chez Theodore Sturgeon, mais ça on peut en reparler après.
On va y revenir.
Oui, juste une petite chose concernant le pour faire le pont entre les deux, entre le bien et le mal et la science, dans les deux grands surhommes de la DC Comics, Superman est quelqu'un de normal. Il devient Superman parce que son père, qui est un savant, Jor-El, l'envoie sur Terre. Mais lui est normal. Donc déjà, il y a une création qui est le fait d'un savant, un savant qui est qualifié de fou sur sa propre planète, puisqu'il prophétise la disparition de Krypton. Quant à Bruce Wayne, qui se crée lui-même, il est chimiste, je crois. En tout cas, il est à la tête de la Wayne Tech, qui est une entreprise de chimie. Et ce qui est intéressant, c'est que Superman, qui s'appelle Clark Kent, Clark Savage Kent Allard, Doc Savage le Shadow, c'est le digne héritier de ses héros. Superman, qui est créé, lui, protège les innocents, tandis que Bruce Wayne, qui se crée lui-même, lui, punit les coupables. Et on arrive à deux conceptions du bien et du mal différentes.
Et Superman protège aussi l'American Way of Life, si je me souviens bien.
Pas toujours, en fait. Il est accidentellement tombé dans le Kansas, mais il y a eu le Red Sun qui était très bien, où il tombe en Ukraine, et là, ça change.
Alors, pour en revenir, Ariel Kirou, tout à l'heure, avait déjà commencé, dans sa définition du surhomme, à en parler un petit peu. Le surhomme, c'est quelque part l'homme plus. Mais quelque part, si on est un surhomme, c'est par rapport à des sous-hommes, à des races inférieures. Et là aussi, il me semble que c'est un courant de cette littérature où, en fait, c'est l'Américain souvent moyen. On en revient un peu justement à l'un des thèmes de cette table ronde sur l'esprit de conquête américain, où, en fait, on a des personnages qui sont des, entre guillemets, des Américains moyens, mais qui, par rapport à des races inférieures, se trouvent en position de surhomme. Je pense, par exemple, à Buck Rogers, à Flash Gordon. En théorie, ce sont des Américains moyens, mais ils sont face à des populations jaunes, donc par définition inférieures, etc. Est-ce que là aussi, il n'y a pas, ça ne rentre pas dans le cadre de toute cette évolution sociale et culturelle aux États-Unis? Ce genre d'opposition où il y a le sous-homme, Tarzan aussi.
Tarzan est clairement un aristocrate, mais il est déjà aristocrate par le sang et il va s'anoblir lui-même. Mais oui, le cas par exemple de Flash Gordon montre bien que, ou de John Carter sur Mars montre bien que n'importe quel Américain est un surhomme dans des conditions dans des conditions trouvées. Mais le problème, c'est que on peut parler, effectivement, on peut dénoncer l'eugénisme, etc. Mais je crois qu'il y a une sincérité derrière cette Amérique de l'époque, parce que tout simplement, tous les premiers Américains ont été des gens normaux qu'on a mis dans des conditions anormales et qui s'en sont sortis. Donc ils ont l'imaginaire, les romans, les bandes dessinées qui reflètent comment a été créée l'Amérique. Moi, vous me mettez devant une tribu Sioux à traverser les Appalaches, j'aurais un peu de mal. Ils l'ont fait.
Oui, donc finalement, là, on rejoint le mythe de la frontière aux États-Unis. C'est-à-dire qu'en fait, le surhomme, c'est celui qui va peut-être dépasser toutes les frontières. Et c'est une des raisons pour laquelle donc, il trouverait cette création, serait vraiment développée donc, aux États-Unis. Et pour en revenir justement à cette notion de surhumain et éventuellement de sous-humain, j'ai travaillé l'année dernière sur... les insectes mutants. Donc là, on s'éloigne évidemment complètement de notre sujet. Mais ce qui était quand même intéressant, si vous voulez, c'est que dans cette littérature, notamment aux États-Unis, qui va ensuite se déverser littéralement dans le cinéma avec ce qu'on appelait les bug movies, c'est-à-dire tous les films donc des insectes mutants, qui va avoir un succès fou dans les années 50-60 donc aux États-Unis. Eh bien, finalement, le surhomme risque, ou tout du moins l'américain, voilà, risque d'être dépassé finalement par des insectes mutants. Donc, ce qui est intéressant pour moi là, c'est cette idée de la mutation, et peut-être que ça va nous amener à une classification, mais au moins un essai, on va dire, de typologie finalement des surhommes.
Oui, donc pour vous répondre sur cette question, je dirais que on a parlé beaucoup de bandes dessinées, on parle aussi d'auteurs de science-fiction en littérature. Lorsqu'on étudie en fait tous les auteurs de science-fiction, quel que soit leur support de ces années-là, on se rend compte qu'il y a vraiment tout et son contraire. Le thème du surhomme est fort, quel que soit ce qu'on y met derrière. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a autant effectivement les slants de Von Vogt, qui sont un peu dans cette image quelque part, hein, qui sont dans cette image de supériorité par rapport à l'homme normal. Ce sont les élus en quelque sorte. Mais on a aussi l'inverse avec Theodore Sturgeon, où les plus qu'humains, c'est le titre de son roman, les plus qu'humains sont des idiots. Le premier personnage que l'on découvre est un demeuré mental qui ne parle pas, qui ne sait pas parler. Il y a deux petites sœurs noires qui font de la téléportation. Elles se téléportent sans cesse de partout. C'est pareil, elles sont incapables de parler. Ce sont des enfants. Il y a ceux qui sont capables de manipuler les esprits. Il y a plusieurs capacités qui sont réunies, capacités extraordinaires, chez une série d'enfants, d'anormaux ou d'idiots. Hein, vraiment d'idiots, ils sont considérés par les adultes comme des idiots, et ensemble ils forment une sorte d'homo gestalt, et c'est le collectif de ces surhumains qui sont des sous-humains qui créent quelque chose d'extraordinaire. Et ça, c'est essentiel, c'est-à-dire qu'en fait, entre Stapleton avec son Rien qu'un surhomme, qui est une sorte de génie qui vivrait normalement 400 ans, 500 ans, mais qui est complètement isolé, qui quelque part, qui normalement ne devrait pas passer 9 mois dans le ventre de sa mère, mais 12 mois... Il y a en fait dans les auteurs en fait qu'on retrouve dans l'âge d'or des tas de variations sur le surhomme qui vont dans un sens ou dans l'autre en fonction des idées qui étaient celles des auteurs tout simplement ou de leurs éditeurs. Donc on retrouve voilà une immensité de possibilités dont celle excessivement poétique et assez surprenante de Theodore Sturgeon qui, il faut quand même le dire, était l'un des grands noms de l'âge d'or, dans les pulps, dans Astounding, qui est le grand journal de pulp qui publie des feuilletons de Campbell, qui est la référence par rapport à l'âge d'or, eh bien, on y retrouve autant Von Vogt, avec ses slants, que Theodore Sturgeon avec les plus qu'humains. C'est-à-dire deux visions totalement opposées de ce que pourrait être un surhomme. Et c'est vrai que John Carter en est une autre. Hein. John Carter sur Mars de Edgar Rice Burroughs, qui est l'auteur de Tarzan, il n'a rien d'extraordinaire en tant que tel. C'est le fait de se retrouver sur Mars avec une gravitation différente qui va faire de lui un héros. Donc il est héros presque par défaut, en quelque sorte. Et ce qui va faire de lui le vrai héros, en l'occurrence, c'est ses valeurs morales. En fait. Et c'est ça que racontent finalement les aventures de Mars d'Edgar Rice Burroughs.
Et c'est un peu la même chose avec Buck Rogers ou Flash Gordon.
Absolument, mais je rebondirai bien sur ce qui vient d'être dit là. C'est, à la limite, peut-être plus que le thème, moi, m'intéresse, c'est les conditions d'apparition du thème au niveau culturel. Et cet énorme laboratoire de variation que représente la culture de masse, les pulps de l'époque. Et tous ces auteurs qui crèvent un peu la faim, il faut bien dire, qui produisent chaque mois autant que possible à la ligne des histoires comme ça. En fait, ils créent une espèce de bruissement autour de ce thème qui voit émerger des figures qui font mouche. Certaines font mouche, d'autres sont complètement oubliées. Et d'une certaine manière, la culture et la masse se reflètent dans cette production de héros et de récits. Et de temps en temps, il se passe. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de travail sémiotique, parce que ce bruissement là de formes qui se fait dans des conditions en fait quasi foraines. Hein. En fait, la production de pulp, comme la production de bande dessinée à la période des années 50, est une production qui teste des idées en permanence. Avec beaucoup de rotation et beaucoup de variations, et qui, quand une idée fait mouche ou une amorce de succès se dessine, on tire sur ce fil et on augmente. Donc il y a un côté presque darwinien dans la création de ces personnages. Même là, je fais de la méta, je m'intéresse en fait plus à la façon dont travaillent les auteurs et aux conditions de production de la littérature qu'au thème lui-même en réalité, parce qu'on voit ce type de production culturelle qui émerge à certains moments, dans certaines périodes. Dans la bande dessinée autour de 1900, il y a eu une espèce de période de foraine aussi de production qui a créé la bande dessinée moderne. La période foraine des années 40 et 50 au niveau de la création des super-héros est aussi une période comme ça, où dans laquelle on produit un nombre considérable de propositions très très variées, et dans lequel le public finit par sélectionner les figures qui l'intéressent. Et peu à peu, il y a une dérive qui se produit, qui est presque, je dis, darwinienne au sens culturel. Et donc, voilà, c'est dans ce sens-là, je suis tout à fait d'accord avec ta description qui est absolument typique de ce type de moment forain dans la production culturelle.
Merci, parce que je vois que l'heure tourne très très vite. Il me semble aussi que lorsqu'on parle du surhomme, il y a une composante qui est très importante chez beaucoup d'auteurs. C'est en fait le sentiment de peur que génère l'apparition du surhomme par rapport à l'homme normal, hein, parce que le surhomme, c'est celui qui risque de nous remplacer. Et il me semble qu'il y a une particularité dans cette littérature, entre autres, c'est lorsqu'on parle des robots, parce que le robot, c'est dans les années 40-50, c'est le surhomme mécanique que nous avons créé et qui va nous remplacer. Donc, je ne sais pas qui voudrait en parler. Ça commence avec Ian Dobinder, par exemple.
Oui. Puis ça commence en Europe, d'abord, les histoires de robots. Je vais donner un petit cours là-dessus. Voilà, je vais donner juste ce soir, je vais en parler dans un cours du soir si ça vous intéresse. Mais les robots donc sont créés, enfin le terme de robot, robota en tchèque, est créé donc par dans la pièce de théâtre Ruhr, Rossum Universal Robots, donc de Karel Čapek en 1921. Et là c'est très très clair, c'est-à-dire que les robots qui ont été créés au départ finalement pour aider l'homme dans cette organisation scientifique du travail, on en revient toujours, on est toujours dans les années 20, eh bien, va finir dans la pièce. Ça finit très très mal pour l'homme, puisque les robots tuent quasiment tous les humains, et l'homme se retrouve totalement finalement isolé et a été remplacé par les robots. Et donc, alors chez les frères Binder, donc aux États-Unis, Adam Links, qui est donc le premier robot finalement créé, est quand même un bon robot entre guillemets, comme d'ailleurs chez Asimov, avec des nouvelles par exemple comme L'homme bicentenaire ou iRobot d'ailleurs. Et donc on a deux figures dès le départ finalement du robot, parce que le robot, c'est la créature que nous avons créée qui va nous remplacer et qui va même surpasser finalement le surhomme.
Voilà, je ne sais pas si je suis encore dans le thème, mais comme l'heure tourne, ce qui m'intéresse aussi, c'est la relecture de ces super-héros de l'âge d'or et de l'âge d'argent aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on en dit aujourd'hui aux États-Unis, et notamment qu'est-ce que la télévision américaine en dit. Et par exemple, Battlestar Galactica, c'est une relecture de Karel Capech qui est évidente. Et le surhomme, c'est dans un premier temps le robot, voire plus. J'en dis pas plus pour ceux qui suivent. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est, et je pense que le public connaît, c'est le surhomme aujourd'hui à la télévision américaine, c'est Sheldon Cooper dans Big Bang Theory, où Sheldon est entièrement nourri de surhomme. Il ne lit que des bandes dessinées. C'est d'ailleurs DC Comics qui plaît à Sheldon, où il y a la Lanterne Verte, Flash, etc. Lui-même se considère comme étant supérieur à tout le monde. Il est littéralement un surhomme. Et le fait est que, du point de vue de son quotient intellectuel, c'est un surhomme. On apprend dans un épisode que le Pentagone le surveille, donc connaît sa valeur, mais téléphone à sa mère pour le calmer. Donc là aussi, on retrouve toute la composante militaro-scientifique, etc. Et je pense que Sheldon Cooper, dans Big Bang Theory, est une relecture amusée, avec beaucoup de second degré, de la culture américaine vis-à-vis de ses racines et vis-à-vis de ce qu'il a fondé.
Ariel Kirou.
Oui, alors on va mêler toutes ces questions, vu qu'il reste peu de temps. Par rapport aux robots, pour simplifier, pas pour entrer dans le détail, je dirais que arrivé à un certain stade, le robot, tout comme l'extraterrestre, par exemple chez Philip K. Dick, tout comme le mutant, le précognitif de Philip K. Dick, et les surhommes qu'il y a chez Philip K. Dick, sont également d'ailleurs là encore des sous-hommes, définissent une figure qui est celle de l'autre. C'est pour ça qu'on retrouve ça chez Sturgeon. C'est l'autre radical, celui qui est vraiment différent de moi, mais que je ne peux pas juste considérer comme un inférieur. Et c'est le cas bien parfois du robot lorsqu'on pousse le bouchon dans le futur. C'est le cas de l'extraterrestre qui peut être plus empathique que moi-même. C'est le cas du saint qu'est ce mutant chez Philip K. Dick, ou au contraire d'un autre type de mutant qui est une sorte d'être prédateur absolument horrible qu'on retrouve dans une nouvelle de Dick qui s'appelle L'Homme Doré. Donc on retrouve là encore toutes ces figures. Mais je crois que cette notion du différent, de l'autre, en plus ou en moins, est une notion qui est assez essentielle et effectivement qui explique, pour rebondir, qui explique pourquoi cette idée-là du surhumain et du surhomme reste excessivement prégnante aujourd'hui, voire renaît de manière très très forte avec la génétique, avec ce qu'on appelle la singularité, les promesses de l'homme augmenté. Et quand on y réfléchit bien, certes, il est né qu'en 1963, mais Iron Man, avec Jarvis qui le guide, est un homme augmenté, est un surhomme. Et il est totalement normal. C'est son armure qui le rend plus. Voilà. Et ça, c'est vraiment, c'est comme une sorte de passage vers toutes ces facettes, quelque part, du surhomme, du surhumain, qui est parfois le différent, qui a des problèmes, un peu comme les super-héros d'adolescents, de couple. Et c'est ce qu'on va retrouver sans cesse, quelque part, dans ce qui va suivre, et qui continue à motiver un grand nombre de jeunes, de scientifiques, de gens aujourd'hui.
Merci. Alors, comme je vois que l'heure a tourné très très vite et si on veut pouvoir prendre une ou deux questions, je vais peut-être quand même demander le mot de la fin rassurant à Thierry Smolderin, parce que, là, le surhomme qui va nous remplacer, les sous-hommes, etc., il existe quand même au moins un roman de l'âge d'or dans lequel c'est tout à fait rassurant de voir que c'est l'homme normal qui est supérieur au surhomme, et c'est dans Les Rois des Étoiles de Edmond Hamilton que vous avez beaucoup abordé dans Souvenir de l'Empire de l'Atome.
Oui, c'est un roman qui a... Je sais pas, est-ce qu'on entend, hein ? C'est un roman qui, effectivement, touche presque beaucoup de boutons assez intéressants. L'histoire d'un homme qui un jour est contacté télépathiquement. Vous connaissez peut-être pour beaucoup le roman. Contacté télépathiquement par un empereur des étoiles qui opère un échange d'esprit entre l'empereur des étoiles et ce John Gordon, qui est un homme... tout à fait normal. Et en fait, ce John Gordon, parce qu'il est très rationnel, parce qu'il est très intelligent, parce qu'il a une certaine distance par rapport à cet empire, et parce qu'il est américain, évidemment, réussit parfaitement en fait, il réussit presque à renverser ou à s'accaparer cet empire, un peu avec la facilité des conquistadors quand ils ont conquis l'Amérique du Sud, quoi. Donc il y a cette facilité. Je pense que c'est aussi il y a des modèles historiques qui jouent là-dedans quand on parle de la force des surhommes comme image de l'Amérique. C'est aussi la conquête facile de l'Amérique d'une certaine partie dans certains moments historiques comme ce renversement de l'empire inca qui s'est fait en l'espace de quelques semaines très facilement.
Merci. Ben, je pense que nous avons encore le temps peut-être pour une ou deux questions, si vous en avez. Voilà le micro.
Oui. Moi, l'impression que j'ai, c'est que cette thématique est aussi peut-être la plus ancienne de l'histoire de la littérature. Si vous regardez le tout premier texte apparu tel qu'on connaît, qu'il est Gilgamesh, c'est pas autre chose qu'une histoire de super-héros. Il faut quand même rappeler que le plus ancien texte de la littérature est un récit de science-fiction et deux, un récit de science-fiction homosexuel, puisque ce super-héros va dans les enfers rechercher son petit ami qui est mort. C'est quand même... C'était un peu audacieux pour l'époque. Mais si on regarde la suite de la littérature par la suite, les romans arthuriens sont pleins de personnages comme ça. Ulysse, c'est pas autre chose. Et finalement, toute l'histoire de la littérature, dans les légendes scandinaves, comme dans un certain nombre de textes, enfin disons de traditions que l'on a aussi bien dans les Andes qu'en Afrique, on retrouve cette thématique. Donc c'est une thématique de base de la littérature et je crois qu'il faut le rappeler, c'est pas seulement dans une période historique, c'est pas seulement lié à la science-fiction stricte. Voilà, c'est ça que je voulais rajouter.
Oui, pour répondre à ta question, pour rebondir sur ta question, oui, c'est, à mon avis, moi c'est un mythe, hein, c'est-à-dire que le surhomme est considéré finalement comme non seulement un modèle de la littérature, hein, comme tu l'as dit, en se référant bien sûr à Gilgamesh. Et quand on voit une thématique comme ça, qui traverse les contextes, les âges, les époques, voire les formes littéraires, eh bien, c'est tout simplement un mythe. Et finalement, le surhomme dans la science-fiction, c'est la réécriture de ce mythe.
Oui, exactement. C'est-à-dire que, de fait, la science-fiction, surtout sur ce thème-là, réinvente les mythes, le réactualise, le fond reste le même, strictement le même. Et le pire, c'est qu'en plus, ce fond mythique nourrit maintenant la science et des scientifiques qui, par exemple, il y a ce qu'on appelle les immortalistes, en fait, qui croient qu'ils peuvent en quelque sorte devenir des Gilgamesh demain. En fait, hein. Et donc, oui, c'est un éternel recommencement, une réinvention permanente d'une thématique. C'est évident et beaucoup d'ailleurs d'auteurs de science-fiction l'ont admis très clairement. Hein.
Bien, je crois que nous allons rester sur cette conclusion. Il ne nous reste plus qu'à remercier nos quatre intervenants.